À quoi tu penses?
Tout ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais?
À quoi tu penses?
Tout ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais?
Bonjour, bienvenue dans votre magazine quotidien, séquence midi composée de découvertes musicales, de vos sorties à Poitiers et ses environs et surtout de rencontres autour de l'actualité. Aujourd'hui, on va parler eau, puisqu'on accueillera le festival Voix Publique qui célèbre sa 24e édition ce samedi. Enfin, ça commence ce samedi. Films, concerts, conférences, tables rondes, ateliers, tout un programme. On en parle en seconde partie d'émission. Mais d'abord, j'accueille Mathis Haradji pour la CIMAD. Bonjour.
Bonjour.
Et Christophe Rabussier pour la CFDT. Bonjour.
Bonjour également.
Et vous êtes tous les deux réunis pour une mobilisation qui aura lieu également ce samedi, mobilisation Poitvine des livreurs pour demander la régularisation de ces livreurs sans papier. On va en parler. Pourquoi d'abord avoir choisi ce 22 mars ? Ce n'est pas une date anodine.
En effet, ce n'est pas une date anodine parce que c'est le 22 mars, il y a un appel national à la mobilisation pour la journée internationale contre le racisme. Et ça nous a paru assez cohérent de faire une demande, de faire cette manifestation ce jour-là, parce que la situation des livreurs poitevins qui sont sans papier est la résultante de politiques qui cherchent à réduire absolument toute possibilité de régularisation. Et ça nous a semblé donc assez évident le lien.
Alors justement, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qui motive cette mobilisation ?
Eh bien, nous, au niveau de la CFDT et d'Union Indépendant, on travaille avec les livreurs depuis plusieurs mois. Et on s'est aperçu qu'il y en avait un certain nombre sur Poitiers qui avaient des problèmes de papier, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en règle. Et donc, comme ils n'ont pas de papier, ils sont obligés de travailler sous alias, c'est-à-dire avec un nom d'emprunt, et donc de payer quelqu'un pour pouvoir utiliser son nom et un compte à un nom d'emprunt. Donc, ça nous a semblé une précarité supplémentaire pour ces personnes, et c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut qu'on travaille là-dessus, et il faut qu'on essaye d'obtenir la régularisation, c'est-à-dire des titres de séjour pour ces travailleurs.
Alors, qui sont-ils? Combien sont-ils concernés par cette situation à Poitiers? Est-ce qu'on arrive à se rendre compte?
Alors, une vision totalement exhaustive, on n'a pas, mais on estime qu'il y a entre 20 et 30 livreurs sans papier sur 100 livreurs, puisqu'il y a les livreurs qui ont des papiers, il y a ceux qui sont en cours de demande d'asile, donc qui ne sont pas actuellement sans papier, mais qui n'ont pas non plus l'autorisation de travailler et qui donc doivent recourir au système d'alias auquel a fait allusion Christophe. Et enfin, il y a donc les livreurs sans papier, donc qui ont été en général déboutés de leur demande d'asile. Et avec la CFDT, l'Union Indépendante et nous-mêmes la CIMAD, on a accompagné la création d'un collectif qui est composé actuellement de 20 livreurs sans papier. Donc quasiment tous les livreurs sans papier sont de ce collectif et donc déterminés à faire valoir leurs droits.
Et est-ce qu'on a un petit profil type? De quel pays ils viennent? Quel âge ils ont?
Alors, en ce qui concerne les livreurs poitevins, ils sont très majoritairement issus de la communauté guinéenne, qui est très implantée sur Poitiers. Et donc, les vins qui vont faire la demande sont tous là d'origine guinéenne.
Ce sont principalement des hommes.
Ah oui, ce sont tous des hommes. Et qui ont entre 20 et 30 ans.
Voilà, des jeunes hommes et a priori principalement venus de Guinée. Et alors, quelles sont les difficultés concrètes qu'ils rencontrent au quotidien en tant que travailleurs sans papier?
Eh bien, dans les difficultés, il y a tout d'abord le fait de travailler sous alias. C'est une difficulté puisqu'ils doivent payer la personne qui leur prête le compte professionnel Uber ou Deliveroo pour pouvoir travailler. D'ailleurs, le film L'Histoire de Suleiman, qui a été primé au César, explique extrêmement bien comment fonctionne ce système. Et les chiffres évoqués dans ce film sont bien ceux-là. C'est 100 euros par semaine qu'ils doivent payer pour pouvoir travailler. Et donc ça, c'est la première difficulté. Et puis les autres difficultés, c'est que c'est quand même des personnes qui sont toute la journée dehors et donc qui sont extrêmement exposées à des contrôles de police pour vérifier s'ils ont des papiers. Et quand c'est comme ça, en général, ils se retrouvent avec d'office des mesures d'éloignement alors qu'ils étaient tout simplement en train de travailler.
Alors, quelles sont leurs revendications précises aujourd'hui? Quel type de régularisation ils pourraient demander ou vous souhaiteriez qu'ils obtiennent?
Mathis va développer, mais ce qu'on demande, c'est une admission exceptionnelle au titre de régularisation par le travail. Voilà. En fait, ces gens travaillent et nous, on estime qu'à partir du moment où ils ont un travail, ils ont le droit de pouvoir séjourner sur le territoire français et qu'ils doivent pouvoir disposer d'un titre de séjour.
Tout à fait. Et en fait, la problématique, c'est que comme ils ne sont pas salariés, on a dû utiliser. Donc, c'est une admission exceptionnelle qu'on va demander, mais c'est plus précisément une admission exceptionnelle vie privée, vie familiale, puisque l'admission exceptionnelle, sinon, c'est salarié. Et comme ils ne sont pas salariés, ça ne fonctionne pas. Mais dans l'admission exceptionnelle, on va faire valoir effectivement le motif exceptionnel qui est leur travail. Et un des indices pour montrer qu'ils sont bien livreurs alors qu'ils travaillent sous alias, c'est notamment cette manifestation, ce collectif qui est réservé à des livreurs de plateforme.
C'est ça, c'est que vous avez décidé de vous mobiliser en collectif, c'est pour justement peser plus ou pour pouvoir faire cette demande, parce qu'en individuel, ce n'était pas possible ?
Alors en individuel, c'est des dossiers que, en tant que bénévole à la CIMAD, j'aurais du mal à conseiller de tenter la demande, puisque effectivement c'est très risqué. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce collectif, pour effectivement essayer d'entamer un rapport de force, attirer les politiques sur le sujet notamment. Et surtout, comme je vous l'ai dit, l'avantage de ce collectif, c'est de donner de l'importance à leur déclaration comme quoi ils sont livreurs.
Oui, parce qu'effectivement, c'est aussi le problème de ces plateformes, c'est qu'ils ne sont pas salariés.
Voilà, alors ils ne sont pas salariés, les plateformes les obligent, les contraignent à être sous statut d'auto-entrepreneur, ce qui est une précarité effectivement supplémentaire, ce qui leur donne des droits inférieurs aux droits des salariés. Typiquement, quand ils ont un accident et le risque de se faire renverser quand on est livreur, il est important. Quand ils ont un accident, ce n'est pas considéré un accident de travail et donc tous les frais sont à leur charge et ils se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles quand ça leur arrive.
Et justement, les plateformes, comment elles gèrent cette situation ? Est-ce qu'elles répondent aussi à ces revendications ? Parce que ça ne s'adresse pas qu'au gouvernement.
Non, les plateformes, on a beaucoup de difficultés. On a entamé un dialogue avec ces plateformes au niveau national, mais c'est très difficile. Elles baissent constamment, en plus, la rémunération des livreurs. Aujourd'hui, on estime qu'en 2 ans, cette rémunération a baissé de à peu près 25%. Aujourd'hui, ils sont rémunérés à moins de 50 centimes du kilomètre. Hein, ça vous donne une petite idée de ce qu'ils peuvent percevoir pour une course. Nous, on réclame qu'ils soient payés au moins 1 euro du kilomètre, mais pour l'instant, on en est très loin.
Et au niveau national, les politiques, ou en tout cas les tendances actuelles, ne vont pas à une ouverture pour les travailleurs sans papier. C'est un euphémisme.
Oui, c'est un euphémisme, en effet. C'est donc déjà pour ça que à aucun moment on a préconisé des demandes individuelles, hein, même si certains livreurs étaient plutôt au début de notre accompagnement dès octobre 2023. Certains livreurs étaient plutôt partis là-dessus. Et puis justement, on a essayé de les convaincre que ça ne valait absolument pas le coup de le faire comme ça et qu'il valait mieux le faire en collectif pour cette raison-là. Par ailleurs, en fait, c'est aussi la problématique d'être trop sévère. En fait, quand les politiques sont trop sévères pour la régularisation, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que les personnes individuellement n'ont plus d'espoir et donc forcément leur seul espoir, ils se portent sur ce collectif, sur cette dynamique où ils voient qu'il y a plein d'organisations qui soutiennent.
Oui, vous vouliez peut-être compléter. En tant que syndicat, effectivement, vous soutenez aussi ces revendications qui peuvent en fait toucher d'autres secteurs.
Ah, tout à fait. Hélas, le secteur de ce qu'on appelle l'ubérisation se développe. Ça a été d'abord la livraison à domicile, puis les VTC. Et on voit maintenant que d'autres secteurs sont frappés par ce mode de rémunération. Et nous, c'est vrai qu'en tant que syndicaliste, ça nous inquiète, parce que les droits sont très inférieurs aux droits que procure le salariat. Quoi.
Et pourtant, au niveau national, on parle de ces métiers en tension qui pourraient permettre plus de régularisation. Là, sur le terrain, vous ne le voyez pas, en fait.
Ben, Mathis pourra le dire, hein, la liste des métiers en tension, elle ne correspond pas malheureusement à la réalité de ce que vivent même les demandeurs d'emploi et les entreprises sur le terrain. Mais en aucun cas, malheureusement, la livraison n'est dans les métiers en tension.
Et oui, tout à fait. Déjà pour une raison simple, c'est-à-dire qu'ils sont auto-entrepreneurs. Les métiers en tension, ça concerne des salariés. Donc déjà, on bute rien que là-dessus. Et ensuite, effectivement, il y a plusieurs faits qui expliquent pourquoi la liste des métiers en tension et peut être en déconnexion. La première, c'est qu'il se base sur les besoins de main-d'œuvre en l'état actuel et non pas sur les besoins de main-d'œuvre en l'absence potentielle de travailleurs immigrés. Et ça, ça change tout, parce qu'il y a des secteurs où sans les travailleurs immigrés, ils seraient véritablement en tension. Mais comme ils sont là et qu'ils sont présents massivement pour subvenir aux besoins de l'économie française, alors d'un seul coup, ils ne deviennent plus en tension. Et il y a de nombreux secteurs qui sont concernés par ça. Et là, il y a une nouvelle liste des métiers en tension qui est censée paraître depuis fin février. On l'attend toujours. On est curieux de savoir ce qui va ressortir, mais il y aura encore forcément des trous dans la raquette, sachant que jusqu'à maintenant, il y avait des trous énormes. On pense notamment à la restauration qui n'en faisait pas partie jusqu'à maintenant. Et on pensait aussi à toute la main-d'œuvre non qualifiée du BTP aussi, qui n'en faisait absolument pas partie. Alors il semblerait que d'après les échos qu'on a eus, que ça devrait être changé avec la liste, mais ça ne changera rien à d'autres secteurs qui seraient toujours pas concernés, du type les ménages dans les locaux d'entreprises et d'administration, ainsi que les entreprises de gardiennage et de sécurité.
Tous ces travailleurs qu'on dit invisibles parce qu'ils ne travaillent pas sur les mêmes horaires que les autres. Alors, vous avez prévu une manifestation. Il y a aussi, on va y revenir, vous allez projeter justement ce film que vous évoquiez tout à l'heure, l'histoire de Souleymane, qui raconte cette lutte des livreurs avec un débat avec eux.
Voilà, tout à fait. On invite tous ceux que ça intéresse à nous rejoindre pour cette projection qui aura lieu vendredi soir à 21h au Dietrich à Poitiers. Donc on va projeter le film « L'histoire de Souleymane ». À l'issue de la projection, les livreurs se présenteront, tous ceux qui font les demandes de régularisation. Et puis on fera un petit échange avec la salle pour qu'ils puissent expliquer un petit peu leur motivation. Et le lendemain, on se retrouve donc pour cette manifestation à 10h devant la Grande Poste à Poitiers, où les livreurs vont poster leur demande de régularisation, parce qu'on est obligé de les envoyer par voie postale. Et ensuite, on fera une petite manifestation en centre-ville. Madame la maire de Poitiers nous accueillera à 11h devant la mairie pour manifester son soutien à cette initiative. Et on terminera notre manifestation sur la place du marché.
Et puis, il y a une pétition aussi qui a déjà beaucoup de signataires. De nombreuses associations soutiennent le mouvement de ces livreurs au niveau national.
Tout à fait. La pétition, alors il y a d'une part la signature de toutes ces organisations, donc qui est très large coalition d'organisations, à la fois syndicales, associatives et politiques. Et par ailleurs, on a aussi lancé une pétition citoyenne qui a pour objectif de tenir au courant un maximum de personnes sur les décisions de la préfecture. L'idée, c'est que la préfecture, quand elle prendra sa décision, elle ne la prendra pas que vis-à-vis d'un tel ou un tel, mais elle le prendra vis-à-vis de l'ensemble des livreurs, car les livreurs nous ont très clairement exprimé leur solidarité entre eux et qu'ils ne seront satisfaits que si tous leurs camarades sont régularisés, mais aussi la préfecture devra donc rendre compte à l'ensemble des signataires de cette pétition qui exige une réponse positive.
Merci beaucoup à tous les deux, Mathis Haradji pour la CIMAD et Christophe Rabussier pour la CFDT, d'être venus nous parler de cette mobilisation. Donc, pour les livreurs, c'est vendredi pour voir le film « L'histoire de Souleymane » et discuter avec ses livreurs. Et puis, samedi, donc le 22 mars à 10h devant la poste de l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup à tous les deux. On continue en musique avec ce titre, puisque c'est le premier jour du printemps. Ce titre, c'est « Putain d'hiver » de Joe Lagreen. Joe Lagreen, il a 23 ans, il est originaire de Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine. Et c'est la nouvelle coqueluche du rap français.
Ramate, obi, ramate, que j'ai pas le temps pour les dramas. Tu vas caner avant, si t'attends le karma. T'es dans quel monde? Le real one, celui de Narnia. J'étais les Pixman dans le mur Maria. Star Karia, c'est Marbiba. Sad life, triste vie, mais on le dit pas. Le nombre de gigas, faut bien le restocker. J'en ai fini fucké sur le mind man, tout aidé. Ils ne croyaient pas en moi, j'ai fini au cagé. Aïe, 99 grammes dans l'arrêt. Ça fait TPBST, maison d'arrêt. Je l'aime encore, mais je suis navré, je trouve un big rat. La moitié, c'est des merdes, c'est ma seule envie de rap. Grenade flash, grenade frac. Calé dans le bac de cette manchaf. J'suis avec Black Jack, ok. Téléphone M qui revend encore la drogue. C'est Verus Rock, c'est Severus Rock, Severus, t'es ton gars, mais il t'a mis le poison dans le juice, putain de merde. Je suis heureux quand je vois le verre, Florey voit le verre, je suis méfiant avant de boire, je vérifie le verre, quel putain d'hiver, fuck, fuck, fuck. Si tu m'aimes, je t'aime, aïe, pour la vie, follow me. A ôter encore, non, il fallait que je fasse, belle et causée comme un mien.
Fallait que je fasse attention, mon frère.
Bon,
rama, Toby rama, c'est que j'ai pas le temps pour les dramas. Tu vas caner avant si t'attends le karma. T'es dans quel monde? Le real one ou celui de Narnia? J'étais les Bixman dans le mur Maria. Starkaria, c'est Marbiba. Sad life, triste vie, mais on le dit pas. Mon nombre de gigas, faut bien le restocker. Ok, aïe. J'ai plus besoin de toquer, maintenant on sait que je suis là. En vrai, je m'en bats les couilles de cette vie là. J'ai plus que la daronne, bosse au monop. J'suis comme Sherlock Holmes, gros j'mets le monocle. Touche à mes bro et on déboule la flop. Comme Sherlock Holmes, gros j'mets le monocle. Touche à mes bro et on déboule la flop. Bitch. Si tu m'aimes, j't'aime, aïe, pour la vie, follow me. La route est encore longue, va les fasses, va les causer comme on met.
Mais j'fasse attention, mon frère.
Bon, j'ai beaucoup trop d'ennemis. Bon, j'ai beaucoup trop d'ennemis. Si tu m'aimes, j't'aime, aïe, pour la vie, follow me. La route est encore longue, va les fasses, va les causer comme on met.
Mais j'fasse attention, mon frère.
Bon, j'ai beaucoup trop d'ennemis.
De professionnel, je dirais.
Bizarre.
Ça, c'est bizarre.
Les étoiles en plus.
Et pour parler de la 24e édition du festival Voix Publique, on accueille tout de suite Anne Arnaud, présidente de l'association. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Effectivement, 24 ans déjà de ce festival. Déjà, peut-être on pourrait commencer par présenter l'association Voix Publique et sa mission.
Alors, l'association a à peu près 10 personnes qui organisent ce festival, cette manifestation, une fois par an. Nous prenons un sujet de société et nous l'agitons dans tous les sens, puisque nous voulons nous être des agitateurs de sens.
Et alors, comment a évolué cet événement depuis sa création? Donc, c'était en 2001.
Eh bien, il n'y a pas de progression particulière. Sur une semaine, nous sommes toujours un peu sur le même modèle, c'est-à-dire proposer au Poitevin de réfléchir sur le thème à travers des moyens différents, c'est-à-dire que ça peut être des films, des conférences, une table ronde, un atelier, et dans des lieux très divers pour toucher un public assez différent.
Alors, la thématique cette année, c'est celle de l'eau, l'eau d'ici et l'eau de là. Comment vous avez choisi cette thématique?
Alors, on avait parlé de l'intelligence artificielle, puis des images l'année dernière. Et cette année, il se trouve que l'eau nous paraissait un thème qui était très d'actualité. Et donc, voilà.
Oui, qui a des répercussions politiques sur le territoire aussi. Oui,
exactement.
Alors, donc, il y a effectivement une grande variété d'événements, expositions, visites, conférences, projections. Est-ce que vous pourriez déjà nous parler un peu des temps forts, des choses à ne pas rater de ce festival?
C'est très difficile.
Très difficile pour la présidente de l'association, j'entends.
Peut-être que les tables rondes sont peut-être les points forts ou les conférences, parce que nous faisons appel à des techniciens ou des gens particuliers, des bénévoles. D'abord des intervenants bénévoles, je tiens à le dire, qui viennent partager leur savoir ou leur expertise. Et donc, on est vraiment au cœur du sujet.
Il y a aussi des expositions, des expositions, Innodation dans le bassin de la Vienne notamment. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de cette exposition en particulier?
Alors, l'inondation est a priori le premier risque naturel en France, et surtout dans les années à venir. Et donc, l'établissement public de Bassin a organisé une exposition sur les différentes crues de la Vienne depuis un siècle à peu près.
Et alors, si on peut dire, il n'y a pas que de la théorie, parce qu'il y a aussi des visites, notamment de la station de traitement de l'eau de Beljouanne. J'imagine que c'est intéressant aussi de rentrer dans le concret avec les participants du festival.
Et bien sûr, parce qu'on a du mal à savoir où est... On a l'eau au robinet sans se poser de questions, mais il y a tout un travail en amont. Donc, il y a deux stations qu'on va visiter. Il y en a une, donc, mercredi 26 à 14h30 à Beljouanne, qui est là, c'est une eau qui capte l'eau d'une source et qui est consommable et qui la rend potable. Par contre, jeudi à 14h, on propose une visite de la station d'épuration de La Folie. Elle récupère les eaux usées et pour la remettre dans les rivières. Donc c'est vraiment deux points de vue très différents. Et la station de La Folie est particulièrement moderne et novatrice, donc c'est intéressant de voir comment ça se passe.
Oui, en termes de traitement notamment de cette eau. Il y a des moments de projection de films aussi, Slocum et moi, et un film documentaire. Je ne sais pas si vous voulez un petit peu nous détailler ces deux moments de projection.
Alors, Slocum et moi, c'est un film d'animation s'adresse à un public à partir de 9 ans. Et donc, alors, on sort un petit peu du problème de l'eau, inondation, etc. C'est plus une réflexion d'un enfant qui grandit, évidemment, au cours du film, et qui voit un bateau construit dans son jardin par son beau-père. Et donc, il rêve à ce que ça peut imaginer. Il se demande pourquoi ce bateau s'appelle Slocum, et en fait Slocum c'est une personne qui a fait le tour du monde à travers la mer. Et donc voilà, c'est tout un cheminement philosophique et sur la liberté et la mer.
C'est ça, c'est qu'il y a un côté, effectivement, Voix Publique est une association chrétienne, il y a tout un côté spiritualité, philosophie aussi.
Ben, on en voit toutes les facettes de l'homme, entre guillemets. Et donc, il nous paraît important aussi de traiter les questions spirituelles. C'était un petit peu pourquoi on avait mis l'au-delà dans notre titre. Mais je tiens à dire que ce festival s'ouvre à tous et qu'il n'y a absolument pas de prosélytisme. C'est plus attirer la réflexion et le dialogue, parce qu'on tient beaucoup à ce qui est un partage autour de ce thème de société.
Par exemple, vous parliez des conférences, il y a du déluge au baptême, la Bible au fil de l'eau. Voilà, ça c'est ces moments un peu plus philosophiques, spirituels.
Exactement.
Qui viennent irriguer un petit peu, c'est le cas de le dire, le festival.
Parce qu'on s'aperçoit que dans la Bible, qui est une histoire ancienne et qui s'adresse à tous, l'eau a eu un rôle très important entre les déluges, effectivement, et puis l'eau du baptême. Enfin, bon. Donc il y a vraiment de quoi dire.
Et justement, vous parliez d'accessibilité, de grand public. Tout est gratuit. Ça doit être compliqué à proposer.
C'est aussi ce qui fait du festival son originalité. C'est que jusqu'à présent, grâce aux intervenants qui viennent gracieusement, qui sont bénévoles, et puis évidemment le soutien des autorités, des instances civiles et de quelques sponsors, on arrive encore à offrir depuis 24 ans, ce festival gratuitement.
Donc, conférence, il y a un concert aussi avec les étudiants du Pôle Aliénor, des moments un peu plus festifs que vous proposez.
Voilà, alors cette année, là, on a été un petit peu ennuyés parce qu'il était prévu au centre pénitentiaire de Vivonne, mais les dernières directives de M. Darmanin ont fait qu'on était obligé d'annuler le concert. Du coup, ils sont allés au CHU auprès des personnes âgées de l'établissement Mayol, du bâtiment Mayol, et c'était un très beau moment.
C'est vrai que c'est en train de se renfermer encore plus les prisons, malheureusement.
Voilà, mais on aime bien aussi aller vers ce public qui est très demandeur.
Est-ce que vous voulez nous parler aussi du Café Débat, l'eau d'ici, l'au-delà, au Futuroscope? Ça, c'est lundi 24 mars.
Alors, c'est à 12h30, c'est sur la Technopole, à l'hôtel Alteora. Et c'est plus le Futuroscope, évidemment, avec son aquascope et puis toute son installation, a réfléchi sur l'utilisation de l'eau et la réutilisation de l'eau de façon intelligente et raisonnée.
Et puis, des ateliers aussi. Donc, la fresque de l'eau, connaissez la fresque du climat? Elle existe en version...
Exactement, voilà. Et c'est une association qui s'appelle Odyssée, qui organise des temps forts tenus par des bénévoles pour être pédagogique et à travers le jeu pour interpeller les publics et sur l'eau. Et donc, ils ont des jeux de cartes et il faut les mettre dans un sens bien donné pour réfléchir au cycle de l'eau, par exemple. Et à chaque fois, il y a des questions et il faudra y répondre. Et alors, ça s'adresse à des jeunes et puis on aura un groupe avec des adultes aussi le mardi après-midi.
Et puis ce samedi, toute la journée, il y a aussi Bar à eau avec le Centre Permanent Initiative Val-de-Gartempe pour parler de l'eau potable, l'eau du robinet, l'eau en bouteille. C'est vrai qu'il y a encore, enfin, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en l'eau du robinet, qui préfèrent se tourner vers les eaux en bouteille. Et là, vous pourrez faire votre comparatif.
Exactement. Et alors, il se trouve que ça, c'était pas prévu au départ. Le 22 mars, c'est la Journée nationale de l'eau. Et donc, il se trouve que
ça tombe parfaitement bien. Donc, eh ben, ça commence ce samedi, ça dure une semaine. C'est le festival Voix publique consacré à l'eau, l'eau d'ici et l'au-delà. Et donc, avec des tas de propositions, vous trouverez le programme en ligne sur le site de Voix publique.
Oui, vous savez que, par exemple, les larmes, il y a une conférence sur les larmes. Savez-vous que les larmes, par exemple, n'ont pas la même composition si vous pleurez de joie ou si vous pleurez de peine?
Vous m'apprenez. Merci beaucoup Anne Arnaud, présidente de l'association Voix publique, donc pour cette 24e édition du festival qui débute ce samedi.
Merci beaucoup.
Demain, ce sera le Café de la Presse à 12h30 et tout de suite, c'est l'heure de vos idées sorties. Avec une mobilisation pour l'accès aux soins de toutes et tous pour la reconquête de la Sécu. Donc c'était ce matin à Châtellerault et c'est cet après-midi à 15h. Rendez-vous au Parc des Expos côté Vitalis. Et puis après, il y aura un rassemblement devant l'Agence régionale de santé. Dans le cadre du cycle Paysan-Paysage, le remembrement, une histoire enfouie, une table ronde exceptionnelle avec Inès Léraud, journaliste et documentariste. Et puis plusieurs doctorants et maîtres de conférences de l'Université de Poitiers. C'est donc à 18h et ça parle de, et oui, du remembrement. Remembrement donc qui a eu lieu à partir des années 50 dans l'Ouest bocager. La mécanisation de l'agriculture imposait ce regroupement des parcelles, entraînant l'arrachage des haies. Et donc, voilà, on est en train de revenir sur ces questions-là. Il y aura aussi une vente dédicace de la BD Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement par Inès Léraud et Léandre Mandard à l'issue de la table ronde. L'entrée est gratuite et c'est aux archives départementales. Et puis, un ciné-débat, projection du documentaire Food Cop, c'est au TAP Cinéma à Poitiers à 20h30 pour fêter les 5 ans de la coopérative du Baudet. Si vous voulez réécouter l'interview, on les avait reçus dans Séquence Midi. Sur Pulsar à 17h, c'est À ta santé sur la surveillance de la qualité de l'air liée à notre santé. À 18h, c'est une émission spéciale, l'occasion du Summer Job. Pour tout savoir sur les jobs d'été, venez nous rencontrer. Nous serons en direct du Resto U Rabelais sur le campus de Poitiers entre 18h et 19h30. Et à 20h, c'est Metal Fury. Merci Papa Cortex pour la réalisation technique de cette émission. On se quitte avec Sarah, née de la rencontre entre la chanteuse franco syrienne Climène Zarkan et le guitariste Baptiste Ferrandis. Bon après-midi.